Radio G 101.5 FM.
Tendance à me plaire.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Tendance à me plaire. Au programme aujourd'hui, des moments forts vécus en live au studio en attendant le retour d'émissions inédites quand le contexte sanitaire nous sera plus favorable. Alors vous allez retrouver une chronique Info Infox de Karine, une chronique mode de Caroline. Vous réentendrez le focus de notre chroniqueuse santé sur un chirurgien hors du commun, mais aussi Pierre Benoît alias Monsieur Kiosque. Vous allez pouvoir réentendre deux invités reçus dans l'émission. Lucie pour sa marque Le Bistrot Chauvin et Stéphanie qui nous parlera de pâtisserie et de l'émission Le Meilleur Pâtissier. N'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux et en podcast pour retrouver l'intégralité de nos émissions. C'est parti pour une heure de temps à me plaire.
C'est l'heure de l'invité.
Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir le e-shop Le Bistrot Chauvin, créé et développé par Lucie, une jeune entrepreneuse qui vous propose des t-shirts, tote bags et autres accessoires réalisés presque à 100% dans la région angevine. Lucie, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette entreprise, cette société est née? Racontez-nous un peu votre histoire, comment ça vous est venu cette idée, cette envie?
Oula.
Bah oui.
Alors, à la toute base, c'est parce que j'ai un site internet qui s'appelle topette.com.
C'est ça.
Il a 3 ans depuis cet été. Et le but, déjà à cette époque, c'était de mettre un mot en patois dans tous les articles que je postais.
D'accord.
Et c'est suite à la rencontre avec Fishbrain que je me suis dit, tiens, et si je refaisais vivre le patois sur les t-shirts?
On peut peut-être rappeler ce qu'est Fishbrain, hein, pour les non-angevins.
Fishbrain, oui. C'est mon fournisseur en fait, de t-shirts. Ils font de la sérigraphie, impression. Ils ont aussi leur propre collection, en fait.
D'accord. Et du coup, sur ce site, on trouvait également un annuaire des artisans d'Anjou. C'était un petit peu un site touristique aussi, hein. Vous avez des idées?
Oui, tout à fait. C'est ça. Le but, c'était vraiment de promouvoir à fond d'Anjou, quoi.
Alors, parlez-nous de l'esprit du bistrot Chauvin. Pourquoi ce nom, déjà?
Alors, ça a été très périlleux à trouver comme nom. Mmh. À la base, j'avais l'idée d'une marque avec un mot en patois. Sauf qu'on m'a dit, essaye de voir plus loin. Si jamais ta marque se développe dans toute la France, sait-on jamais. Il faut aussi un nom qui puisse parler à tout le monde. Donc, je voulais pas forcément un nom qui rappelle automatiquement les vêtements, justement, c'est pour faire parler. Et le bistrot, parce que ça fait partie des vieux mots français, et que aussi, en fait, dans un bistrot, on trouve de toute origine, tout horizon, et que généralement, quand on a un petit coup dans le nez, c'est là où on commence à parler
patois
et nos origines. Et Chauvin, pour le rappel au patois, en fait, et à ce côté, pour promouvoir, en fait, tout ce qui est local.
Alors Lucie, ne bougez pas, hein, votre marque a inspiré Monsieur Kiosque. Alors je crois que vous allez reconnaître sa voix, il a fait une analyse sémantique du bistrot Chauvin. On t'écoute Pierre Benoît.
Bonjour Lucie, ça va?
C'est bien.
Un petit café, ça va?
Alors étymologiquement parlant, le bistrot Chauvin, ça pourrait s'écrire santé à la fin de bistrot et avec un L dans Chauvin, mais ça, tout le monde le savait. Moi, en tout cas, je trouve que l'orthographe choisie est très intéressante et cet avis est parfaitement subjectif. Hein. Donc, je suis Monsieur Kiosque et je vous propose de faire ensemble une petite analyse sémantique de la marque de Lucie, le bistrot Chauvin.
Allons-y.
Jingle.
Jingle.
Ah d'accord, non, il n'y a pas de budget pour.
Il est passé, le jingle.
Bon, bah commençons. Alors, d'où vient le terme bistrot?
Oh là là, bonne question.
Karine. On va demander à la spécialiste.
Vous m'entendez ou pas?
Oui, oui, on t'entend très bien.
On t'entend, Karine. Et on se demandait, d'après toi, d'où ça vient le mot bistrot?
Du coin de la rue.
Bah, parce qu'il faut faire la tournée, quoi.
Ah oui, moi j'aurais dit deux fois trop, mais.
J'ai pas trop entendu les réponses,
mais la tournée.
Du coup, ce que j'ai vu, c'est bistrot avec un Y, qui est un mot d'origine russe, et qui serait arrivé à Paris en 1814, lorsque la France de Napoléon était occupée, donc. Par l'armée russe, et bistrot signifie vite. Je crois que Lucille l'a dit, non?
Non,
elle l'a pas dit. Et du coup, ce serait arrivé en France parce que les soldats du tsar étaient soumis à couvre-feu et donc ils n'avaient pas trop le temps pour absorber leur consommation.
D'accord.
Du coup, ils disaient bistrot, vite, faut aller plus vite pour boire.
D'accord.
En fait. Donc, ça, c'est une très belle histoire, mais c'est directement issu de la fantaisie populaire, comme celle qui affirme que les Ponts de Cé doivent leur nom à l'empereur César. Mais ça, du coup, on reviendra dessus à une autre occasion. Non, le terme bistrot, ça désignait d'abord en province les marchands de vin. Et sa première mention connue date de 1884, donc bien après, en fait. À partir du milieu du 19e siècle et l'industrialisation, des hordes de bistrots, donc les marchands de vin, s'installèrent dans la capitale, à proximité des centres ouvriers, pour permettre la consommation de denrées provinciales et surtout, du coup, d'alcool.
Bah oui, tiens donc.
Puis par habitude de langage, le bistrot a fini par désigner l'endroit de consommation et non plus la fonction de qui tenait le commerce.
D'accord.
Ça va jusque-là?
Ouais. C'est parfait.
Du coup, environ 100 ans plus tard, dans les années 60 et le début du déclin industriel dans la capitale, avec les délocalisations, etc., etc., les bistrots ont fini par être envahis par la petite bourgeoisie parisienne qui a envahi la province proche et y apporté une petite touche de raffinement pour donner naissance à la bistronomie. Ça vous parle ou pas?
Bistronomie, si.
C'est manger dans un bistrot.
On mange dans un bistrot, ouais.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Donc le bistrot, en fait, à la base, c'est un lieu populaire et c'est devenu un lieu populaire de bon goût. Pour le terme bistrot, ça paraît clair?
Ouais, très bien.
Et bah, du coup, passons au terme chauvin. Jingle?
Non plus.
Ah. Pas de budget.
Alors du coup, avant de désigner l'excès de patriotisme ou l'attachement exclusif d'une personne à sa ville ou sa région, Chauvin, c'est un nom de famille commun, comme, je sais pas, Bruno Chauvin, Raphaël Chauvin. En fait, Chauvin, ça veut dire chauve à la base. Bien sûr, les exemples cités sont des prénoms pris au hasard.
Ça veut dire quoi, ça?
Super.
Mais alors, tout le monde se pose la question, comment le nom de famille Chauvin en est venu à définir ce qu'on appelle maintenant le chauvinisme?
Oui, c'est vrai.
Et bien, tout simplement, à peu près à la même époque, en 1821, apparaît dans la culture littéraire et théâtrale un certain Nicolas Chauvin. C'est un soldat de l'empereur, totalement imaginaire, qui sert à moquer l'attachement pathétique de l'armée à la gloire de Napoléon. Donc, le personnage, par exemple, est blessé une bonne vingtaine de fois, il lui manque plusieurs doigts, il lui manque même certaines parties de crâne, mais rien à faire, il continue à vénérer l'Empire.
Ah, d'accord.
Donc, la culture s'empare de Chauvin, avec un C majuscule, et en fait une caricature du patriotisme, jusqu'à ce que ce soit Lénine en personne qui reprenne le terme pour récuser les sociodémocrates s'étant alliés aux bourgeois pendant la Grande Guerre. Du coup, ça s'est un petit peu exporté. Un mot d'origine française à la stature internationale pour désigner un sentiment d'attachement à sa province natale.
C'est compliqué.
Ah oui, non, pas trop philosophique, m'a dit Raphaël, faut que Bruno puisse aussi comprendre.
Bien sûr. Voilà. Non,
ça, c'est la chronique mode de la saison dernière.
Ouais,
alors, Chauvin, un nom de famille qui devinait où il est le plus présent?
Chez nous.
En France.
Oui, en France, mais où ça?
À Angers,
alors.
Dans le Maine-et-Loire.
Pas du tout, en Loire-Atlantique. C'est juste à côté. Puis en Ille-et-Vilaine, et enfin, oui, en Maine-et-Loire. Donc,
c'est l'Ouest quand même, pas mal.
C'est quand même l'Ouest. Nous avons bistrot et Chauvin dans le même titre pour qualifier une marque de vêtements qui met à l'honneur le patois en juin. Est-ce justifié?
On se demande.
Eh bah oui, du coup. Car comme nous pouvons le découvrir avec les chroniques de Clic Clac Topette un lundi sur deux à 13h sur Radio G101.5 FM, L'Anjou est riche d'histoire et de culture, mais doit monter au front pour afficher sa singularité régionale dans un ensemble, Pays de la Loire, qui rassemble à la fois un peu de la Bretagne et la Vendée. Deux mastodontes de la culture régionale qui s'expose et s'exporte très bien à l'international. Je pense au Puy du Fou, par exemple, ou même à la fois à Amsterdam, où j'ai vu une pub pour la Bretagne sur un arrêt de bus. Hein.
Ah ouais.
En hollandais, ouais. Dingue.
Bien.
Mais t'es sûr que t'as bien compris?
Oui, je parle un peu hollandais, en plus de parler pas trop en juin. Or, pour se battre, du coup, l'Anjou dispose de deux armes lourdes de catégorie 3B, C, 205, j'ai plus toutes les références. Mm-hmm. On a le bon roi René et le topette, universellement connu à Angers et reflet d'une identité linguistique propre, justement mise à l'honneur avec le bistrot chauvin. D'autant plus justifié que topette, ça désigne initialement une petite fiole graduée afin de verser la goutte dans le café à la fin du repas.
Ah ouais.
Oh.
Petite gourde.
Et là, nous retrouvons l'excellence du chauvinisme angevin avec un petit peu de bistrot.
D'accord.
Bah dis donc, on en aura scotché.
J'ai mal à la tête, mais on va avoir plein de... On a appris plein de choses. Hein. Je vais regarder.
Je crois que je vais bien dormir.
Soso, un petit résumé.
Oui.
Non, mais topette, par exemple, ce mot, en fait, moi, je le connaissais pas avant d'arriver à Angers. Hein.
Ah ouais.
Ah ouais, je l'utilisais
pas.
Tu
n'étais
pas
d'Angers.
Eh ben, je suis de Liré, à 50 km. Donc...
Allez, on fait un petit café. Ah, le bistrot.
C'est ça.
Alors,
on est toujours avec Lucie.
Lucie, ici. Alors, le bistrot Chauvin est avant tout un e-shop hein, sur lequel nous pouvons trouver plusieurs produits. Alors, pouvez-vous nous en citer quelques-uns, Lucie? Qu'est-ce qu'on trouve?
Donc, les t-shirts.
J'en ai un.
Les t-shirts, les badges, je fais aussi des cartes. Et il y a aussi des tampons dits à pâtisserie, mais qui peuvent aussi servir à faire la pâte à modeler ou à tamponner des cartes avec de l'encre. Enfin, peu importe,
ou à tamponner des petits biscuits, par exemple.
Tout à fait aussi. Ouais.
Alors attends, les deux filles sont en train de rigoler comme des malades. Moi je dénonce. J'ai dit cette année, je dénonce. Quand on a dit tampon, ils ont tout de suite imaginé le truc avec la ficelle, avec le petit marqué topette dessus.
Non, je pensais que c'était un sachet de thé que tu lui mets.
Elles sont en forme, les filles.
Ça peut être à méditer comme idée.
Ah oui, bah oui.
Je ne mettrais pas topette dessus, du coup. Je mettrais trempé guinée alors sur un tampon.
Oh non.
Vas-y, enchaîne après.
Très bien,
ça.
Je suis en train de chercher prochainement, j'arrive à trouver. Alors, donc, ces produits, on peut les trouver sur internet, hein, sur votre site lebistrochauvin.com et dans plusieurs lieux à Angers. Alors, pouvez-vous nous en citer quelques-uns?
Donc, l'Office du tourisme à Angers.
Ouais.
Où là, on a essentiellement les t-shirts de la première collection, donc c'est ceux qui sont sur fond blanc, les cartes et les badges. Jusqu'au mi-octobre, je suis aussi au Cube Café, rue Maillet, où là, il y a vraiment toute la collection.
Un très bel endroit sur Angers, ouais. Le Cube
Tout
Café.
Tout à fait. Et depuis aujourd'hui, du coup, il y a une boutique à la Ménitrée qui s'est ouverte, qui s'appelle Les Trésors de Loire.
Ouais. Karine, attention, on t'entend, Karine.
Voilà, très bien. Et donc,
Les Trésors de Loire à la Ménitrée depuis aujourd'hui.
Très bien.
Bravo.
Donc, vous proposez des produits pour femmes et hommes, hein, finalement.
Oui, tout à fait.
Vous vendez également des bijoux, j'ai vu ça.
Oui, alors sur l'e-shop, en fait, le but, comme c'est vraiment de promouvoir aussi l'Anjou, j'ai deux créateurs de bijoux qui ont quelques-uns de leurs produits en ligne sur mon site.
Alors moi,
ça serait d'étoffer encore après. Hein.
J'aimerais bien qu'on parle des illustrateurs et des mots hein, qu'on trouve sur vos mots. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Je pense par exemple à Pilou. Qu'est-ce qu'il a réalisé?
Alors Pilou, c'est celui qui a fait mon topette.
Donc le mot topette.
Qui était, voilà, tout à fait. Qui était à la base en fait le logo de mon premier site internet, enfin de mon site internet.
D'accord. Et puis il a créé les petits personnages aussi de votre logo.
Oui, c'est ça. Il a aussi fait du coup le logo du bistrot chauvin.
LR Création,
c'est elle qui a fait la douceur en juin. Le dessin qu'on retrouve sur tote bag, carte et badge.
Et j'aime beaucoup le t-shirt Mignoun Guernouille.
Mignonne
Guernouille,
c'est
magique. Alors ça, je connais pas ça.
Et ça veut dire quoi en français?
C'est une mignonne grenouille.
Ah bah oui, pourquoi pas.
Et on trouve des t-shirts avec les mots goulageux, ça veut dire quoi goulageux?
C'est pour les hommes qui aiment bien boire, on tourne toujours dans l'esprit du bistrot.
Et c'est pas devant le Zdenari.
par-devant les narrés. Donc en avant les histoires. En fait, comme Fast Freak, il dessine des têtes de Playmobil, on a repris le slogan de Playmobil qu'on a traduit en patois.
Ouais, c'est son univers, hein, Fast Freak. Voilà, on pourrait imaginer plein d'autres mots, hein, avec les mots ramasse-brouillé, par exemple, vous connaissez
ça? Oui, des chaussettes ramasse-brouillé, ça pourrait bien.
On peut faire pas mal de choses, oui.
Voilà, est-ce que vous avez de futurs projets, de futures collaborations? Est-ce qu'on peut en parler ou est-ce que vous avez des idées?
Non.
Non. Si, pour l'hiver, normalement, il y a des petites choses qui vont arriver, qui tiennent bien chaud à la tête, qui sont faites en France, enfin, même à Angers.
Ah, mais qu'est-ce que c'est?
Et le but, ça serait vraiment de faire du français, du 100% français, donc je suis à la recherche de tout ça.
D'accord.
Le plus de patois. 100% français.
Non, mais non, c'est la fabrication.
Avec du patois.
Ah,
en tout cas, merci. On invite vraiment les auditeurs à aller sur votre site et à découvrir votre univers, hein, Lucie. Vous pouvez également aller sur Instagram et Facebook. Hein. C'est très encourageant de voir de jeunes entrepreneurs comme vous, hein, qui ont envie de développer plein de choses. Merci, Lucie. Bonne suite.
Merci à vous.
Le silence a disparu. Ça me fait aussi peur que le vacarme. Aussi loin que je me souviens plus. Aussi loin que je me souviens plus. Je t'attends sur le coin d'une rue. Je sens le métro qui gronde sous mes pas. Pourquoi tu purges ma peine, je me souviens plus. Aussi loin que je me souviens plus. Ah ouais, c'est maudit par eux. Sur les sutures, je recolle les petits bouts de toi. Les petits bouts de toi qui traînent par-ci, par-là. Maman, 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 en ce moment j'ai mal. Comment qu'on fait, comment qu'on soigne? Ouais, tu as le pouls qui va plus. J'ai le cœur, quoi plus. Dis-moi, je t'aimerais si tu m'aimes plus. Promis, je t'aimerais si tu m'aimes plus. J'ai le cœur, quoi plus. Le cœur, quoi plus. Le cœur pas plume, le cœur pas plume. Le réseau ne répond plus. Pourquoi l'ego d'un coup s'évade? Aussi loin que je me souviens plus. Le cœur pas plume, le cœur pas plume.
ça, ce jingle.
Ouais, ça marche bien. Ouais.
Je l'avais proposé pour le jingle de l'émission, mais du coup, c'est pour ma rubrique.
C'est pas mal.
Voilà. Alors, c'est pour prévenir les nouveaux auditeurs. D'habitude, je suis vachement drôle, mais pas aujourd'hui. Voilà. Non, un petit peu quand même. Enfin, non, je suis aussi militante. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'un homme exceptionnel, un homme qui a traversé une heure de ma vie d'étudiante. Une heure seulement. Cette heure est gravée dans ma mémoire et je n'imaginais pas que de telles choses pouvaient se produire. Alors, nous sommes en 2010. Je suis étudiante à l'Université d'Angers et monsieur Denis Mukwege vient nous délivrer un enseignement. Depuis 20 ans, le médecin congolais est l'homme qui répare les femmes. Formé en gynécologie à Angers, il est un combattant infatigable de la lutte contre les violences qui leur sont faites. C'est son histoire que je vous raconte aujourd'hui. Alors, 24 octobre 84, titulaire d'une bourse à 30 ans à peine, c'est vous dire que le jeune homme est plein d'avenir, un jeune étudiant congolais fraîchement débarqué à l'aéroport Charles de Gaulle rejoint les bords de Maine. 23 janvier 2018, drapé dans une toge noire et groseille, bon, pas de très bon goût, mais quand même, un homme à la stature autant imposante que rassurante s'avance dans les couloirs de la faculté de droit. Dans quelques instants, il sera fait docteur honoris causa de l'Université d'Angers. Entre ces deux instantanés, plus de 30 ans d'écart qui ont façonné la trajectoire de Denis Mukwege. L'étudiant transi a laissé place à l'homme qui répare les femmes. Gynécologue obstétricien de renom, le médecin et pasteur congolais a fait de son métier un sacerdoce, en même temps qu'un rempart à la violence du monde. Alors, au sein de l'hôpital de Panzi, qu'il a fondé en 99 dans la ville de Bukavu, Denis Mukwege et ses équipes soignent, en dépit des menaces, les femmes mutilées et excisées. Profondément marqué par ces violences, il décide de faire connaître au monde la barbarie dont sont victimes les femmes à l'est de la République démocratique du Congo et d'agir pour leur venir en aide. Alors, dans une région où le viol collectif est utilisé comme arme de guerre, il se spécialise dans la prise en charge des femmes victimes de ces agressions sexuelles, leur apportant une aide médicale, mais aussi psychique, économique et juridique. Alors, s'il a mis en pratique les compétences acquises 5 ans durant à la faculté de médecine d'Angers, le chirurgien a depuis longtemps dépassé le champ médical pour camper un militant des droits humains à l'audience internationale. Ce discours, Denis Mukwege le répète inlassablement de sa voix grave et posée aux tribunes du monde entier. Je suis moi-même dépositaire de son témoignage et chaque fois que je rencontre une femme migrante dans le cadre de mon métier, je pense à son combat, à lui et à elle toutes. Sur le site internet de l'hôpital de Panzi, des photos montrent le docteur Mukwege en compagnie d'Hillary Clinton, de l'ancien secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon ou de personnalités culturelles comme Charlize Theron. Il n'en retire aucune gloire personnelle, mais sait l'importance d'être visible. En 2018, il reçoit le prix Nobel de la paix avec Nadia Murad pour leurs efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. Alors, si je vous parle de Denis Mukwege, c'est pour mettre en lumière son combat qui lui vaut d'être menacé de mort après avoir prononcé cette phrase, entre autres phrases évidemment. Ce sont les mêmes qui continuent à tuer dans la ligne droite des massacres qui frappent la République dominicaine du Congo depuis 1996. En République démocratique du Congo, réclamer la justice et la fin de l'impunité dont bénéficient des responsables des guerres, massacres et crimes qui ont jalonné l'histoire récente du pays peut être dangereux. Certains sont toujours en fonction dans le pays, mais aussi au Rwanda et en Ouganda, frontaliers des provinces des Kivu. Alors, pour en savoir plus sur ce chirurgien d'exception, je vous renvoie au documentaire qui lui est consacré, L'homme qui répare les femmes. Il est disponible sur la toile et je vous invite à faire un don à l'association France Kivu, basée à Avrillé, qui apporte depuis de nombreuses années son soutien aux actions de Denis Mukwege. Elle accompagne notamment les stagiaires de l'hôpital de Panzi, fondé par le docteur congolais, lorsqu'ils viennent passer plusieurs mois de perfectionnement en gynécologie dans le cadre d'un accord passé avec le CHU d'Angers. Voilà. Alors, je vous ai bien pour me dire ambiance. Hein, je suis contente de
vous. Non, c'est intéressant.
Voilà. Mais chaque année, j'ouvre l'année scolaire de Tendance à me plaire, on va dire, avec un débat. Voilà. L'année dernière, je me souviens, c'était sur l'IVG, mon coup de gueule sur le fait qu'on n'ait pas de place suffisante pour accueillir toutes ces dames. Ouais. Voilà. Je me rends compte que c'est une rubrique gynécologique avant tout. Je continue en ligne droite vers cet objectif.
C'est important.
Je vous ferai plus rire la prochaine fois. J'essaierai de trouver.
C'est un joli portrait, c'est important de le dire.
Oui. Voilà.
Et bien sûr, on mettra le lien vers l'homme qui répare les femmes, c'est
oui,
ça,
je
le documentaire
vous le donner,
sur notre page Facebook.
Place à Karine, qu'on va retrouver au téléphone pour son pêle-mêle de tendance.
Nouveau jingle aussi pour Karine.
Salut Karine, on t'entend. C'est à toi.
Ah super, parce que depuis tout à l'heure j'essaie de réagir, mais je pense pas que vous répondez.
Ah, on t'entend.
C'est pas grave.
Si, on t'entend. Tu vois, Héral, voilà, c'est bien. On retrouve notre Karine.
Oui,
notre
Karine.
Ça nous manquait.
Donc vous m'entendez bien là,
sûr. Oui,
c'est parfait.
Ok. Alors, donc vous avez fait pour la première un pêle-mêle d'infos et d'intox, et donc ce sera à vous de jouer. On comptabilise les points.
Ouais,
ok. Et tous les deux mois, on remettra les points à zéro.
Ah oui, vaut mieux, parce que sinon, il y a combien de perdus.
Il y a quoi à gagner.
Fait la tournée générale, vous êtes d'accord?
Ok, ah bah tout de suite, ouais.
On perd pas les bonnes habitudes.
Alors, on y va.
Donc, c'est déjà la rentrée, et pour qu'elle soit sereine et se débarrasser de certains collègues un peu collants, est-ce que vous savez comment éviter qu'ils nous racontent leurs vacances en détail? Même si ça parle d'un bon sentiment, c'est pas le meilleur moment quand on est en pleine reprise. Alors, je vous propose le simulateur d'appel. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Ah oui, oui, oui.
Je le veux.
Si, moi, je suis ici. Si. Ça existe, ça, le simulateur d'appel.
Ok,
oui.
Bruno, Manu,
je pense.
Manu, Soso dit oui aussi.
Sinon, moi, je leur fais un gros câlin et du coup, ils me disent basta et ils sortent de leur bureau.
Oh non.
Attends, si c'est pas sorti, moi, je l'invente. Hein. Je le veux, ce truc.
Et Pierre-Benoît, tu dirais quoi?
Mais ça consiste en quoi,
est-ce
ce
que
simulateur?
Ça existe ou pas?
Ah bah,
si ça existe,
ouais, est-ce que ça existe ou pas?
Ah oui, est-ce que ça existe ou pas? Bah oui, c'est comme quand on est dans un tunnel.
Alors tout le monde dit oui, Karine.
Ok, donc le principe, donc c'est vrai exactement. Donc tu pourras pas l'inventer, Raph. Donc le principe, c'est de préprogrammer des appels, ce qui vous permet de faire sonner votre téléphone en toute discrétion au meilleur moment.
C'est bien sûr.
On pourrait même le nommer, j'ai pensé à ça, le simulateur d'appel anti-relou.
C'est ça. Ah, désolé, on m'appelle.
Vous en pensez?
Ah, moi j'adore l'idée.
C'est très ingénieux.
Alors, toujours dans le domaine du boulot. Sur les visios, pour qu'elles soient un peu moins ennuyeuses, parce qu'on maintenant il y en a de plus en plus, vous pouvez rendre vie à la Joconde, à Harry Potter, Barack Obama, et pourquoi pas Trump. Est-ce que ce serait vrai ou pas?
Alors techniquement oui, on pourrait vous rendre vie, c'est-à-dire qu'en fait ça nous remplace, c'est ça, ça remplace notre face par Obama,
ça.
Et c'est Obama qui parle à notre place.
Tu prends le visage que tu veux d'une personne connue.
Alors ça existe, techniquement ça marche. Maintenant, est-ce qu'en visio,
en direct,
ah oui, oula, je sais pas.
Ouais, j'ai un doute moi aussi. Je pense que c'est pas réalisable.
Ou alors c'est très mal fait.
Ou alors peut-être un panorama derrière nous.
Non, ouais, je sais pas.
Et ben, en fait, c'est vrai.
Ah, c'est vrai.
En fait, c'est l'outil Avatar Refine, en fait, qui permet d'inviter le personnage de son choix. Donc, c'est vous qui parlez, et en fait, la personne en face, donc vos collègues à la place, voit le personnage.
C'est
qui
sérieux,
est,
ça.
Donc, ça en interaction avec le visage.
Ok.
Que voilà, c'est en temps réel, et ça met un petit peu de piquant.
Bah, tu m'étonnes.
Alors, autre sujet, si je vous propose d'aller vous rafraîchir autour de l'eau. Des robots pour remplacer les animaux en captivité dans les parcs aquatiques.
Oh, ça serait horrible.
Pour les remplacer, ceux qui sont morts, ou pour des poissons robotiques qui nagent?
Ah oui, ouais.
Non, en fait, c'est des robots, c'est pour remplacer les animaux en captivité. Ça, c'est horrible, Raph. du coup, imaginez des robots à la place des animaux.
Mais moi, ça se peut, hein.
Animaux,
pour aller remplacer un tigre dans la cage au tigre.
Ouais, non, mais je sais pas. Les gens, voilà, il y aurait
pas de problème. À condition que ce soit hyper réaliste, si, ça a un intérêt.
Ouais, mais on n'irait pas pour la même chose que pour un zoo. Ce serait totalement différent. Donc remplacer, non, c'est différent.
Ouais. C'est, en fait, c'est ça. Pour le remplacer, c'est pour éviter d'avoir des animaux en captivité.
Ah, ouais, dans ce sens-là. Non, moi, j'y crois pas.
C'est une bonne idée.
Alors, c'est une bonne idée, mais je pense que si. Moi, j'y crois pas. Je pense que oui.
Moi non plus.
Moi, j'y crois pas.
Moi non plus, j'y crois pas.
Moi, j'y crois.
Et ben, en fait, c'est vrai. C'est des robots plus vrais que nature. En fait, ils peuvent se piloter à distance. Ils peuvent plonger, par exemple, pour des dauphins. Accélérer, sauter et jouer avec des enfants dès qu'ils s'approchent.
D'accord.
En fait, ça s'appelle le biomimétisme.
Les enfants robotiques.
Ils s'inspirent du vivant, donc les robots sont vraiment réalistes parce que la peau aussi est faite en silicone.
Pierre Benoît, il a raison. Maintenant, avec le Covid, on met des enfants robots aussi, donc voilà, ils vont s'amuser ensemble au zoo.
Ah, ce serait bien ça, des enfants robots, pas mal.
On peut débrancher.
Donc non, c'est vrai en fait. Alors ça existe que pour les dauphins et apparemment pour faire la différence de près, c'est on ne sait pas la différence du tout.
D'accord.
Et pour la petite histoire, en fait, c'est la société American Age Innovation. En fait, ils ont travaillé pour le film Sauver Willy.
D'accord.
Et ils sont spécialisés dans les parcs aquatiques. Et en fait, sur le, ils travaillent pour les aides que tu connais, Bruno, pour les animatroniques.
Oui, d'accord. Ils sont dans les parcs.
C'est l'ensemble de procédés électromécaniques utilisés pour animer des figurines qui représentent des êtres vivants. Donc voilà. Après, par contre, ils ont mis aussi en place des robots chiens de berger pour guider les troupeaux.
Ouais.
Mais imaginez-vous demain nager avec le requin, un requin blanc, un robot requin blanc. Est-ce que vous oseriez faire ça?
Non.
Ça dépend qui le pilote, mais pas mieux avec un robot qu'avec un vrai, hein, quand même. Je pense.
Assez flippant. En tout cas, c'est vrai.
C'était vrai. D'accord.
Alors sinon, dans le domaine du loisir, rien à voir. Après, les chefs pistos qui s'invitent chez vous, vous savez, hein, pour remplacer un restaurant. Et comme les concerts ne se font plus ou sont très rares, il y a des groupes de musique qui proposent leur service en jouant pendant une heure dans votre jardin pour un minimum de 4 personnes.
Oh, ça peut être ça.
C'est vrai, ça. Il y a un truc sur Angers, là, concert Atom ou un truc comme ça.
Ah ouais.
Si, c'est vrai. Ça
d'accord.
Existe,
bon, moi je dis que c'est vrai aussi. Pourquoi pas. De toute façon, tout est bon pour pouvoir jouer.
Il disait quoi, Pierre Benoît?
Il disait que ça existait sur Angers.
Concert at Home, ça s'appelle sur Angers, je crois.
Ouais, même vous avez.
D'accord. Et ben en fait, je ne savais pas. Pour moi, c'était faux. Je l'ai.
Ah merde.
Non, ça existe.
C'est drôle.
Ah oui.
D'accord. Bon, au moins vous aurez découvert quelque chose de vrai et en plus sur Angers.
Ok.
Des projections en 3D de professeurs dans les salles de cours qui sont commandées par le professeur lui-même de chez lui.
Ah oui,
c'est un hologramme.
Comme des hologrammes, ouais. Non, bah non, parce que si les élèves sont là, de toute façon, non, moi j'y crois pas. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas le budget, je pense.
Non, oui.
Et puis les élèves, ils sont tout seuls. Le pauvre hologramme, il va pas faire grand-chose pour faire la leçon.
C'est vrai ou pas?
Il s'appellerait Monsieur Mélenchon.
Bon, alors pour l'instant, on a deux noms. Oui, des filles, vous en pensez
quoi? Non.
Non?
Non.
Allez, moi je dis oui.
Ah, il y a.
Ah oui, pour 4 noms.
Eh bien, en fait, c'est faux.
Ah oui, bah, tu me rassures.
Non, ça n'existe pas. En effet, comme dit Bruno, pour gérer les classes, ça va être compliqué. Et quel que soit l'âge, je pense.
C'est vrai.
Alors, sinon, un tour du côté des masques.
Ouais.
Pensez Dark Vador. Donc, si vous pensez Dark Vador, vous pensez masque transparent. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Ah bah oui.
Les masques transparents, oui. Ah, oui,
c'est ça, quoi, le ça existe.
J'ai pas le rapport avec les Dark Vador, mais... Si des masques transparents existent.
En fait, vous comprendrez après.
Ah, d'accord, ok. Bon. Il n'y a que elle qui se comprend.
En fait, ça existe.
Pour les sourds aimés, ouais.
Ça existe, oui et non. C'est que. Désolée, je ne vous entends pas très, très bien.
Ouais, c'est pas les mêmes, on t'entend bien.
Très bien, nous.
En fait, c'est des masques transparents qui sont actuellement en prototype et ils font penser à Dark Vador parce qu'ils sont moulés dans un plastique avec des cartouches sur les côtés qui permettent de filtrer l'air, en fait.
Ah, d'accord.
Le gros avantage, si vous l'avez compris, c'est de voir le visage quand on parle, notamment pour les malentendants, et pour voir aussi les expressions du visage qui peut sortir.
Enfin, oui, pour tirer la langue ou des choses comme ça, par exemple.
Et l'intérêt, c'est qu'il est utilisable à l'infini et peut aussi fonctionner avec la reconnaissance faciale de son portable.
Pas mal.
Ouais, pas mal.
Ouais,
bah. Bah c'est pas mal.
Merci Karine.
Alors on continue de parler des peurs et des angoisses sous l'angle de la superstition, cette fois-ci avec les vêtements et accessoires fétiches des célébrités, avec Caro.
Oui, ben bonsoir à tous. Oui, ma chronique me fait rire, en fait.
Ah, tu te fais propre rire.
J'ai essayé de mettre des blagues et des
trucs. C'est son propre public. Okay.
Non, mais c'est un thème plutôt compliqué. Donc, en fait, vous allez voir, les anecdotes, elles sont un peu, bon, voilà, un peu farfelues, quoi. Alors, donc, moi, ce soir, je vais vous parler des vêtements et des accessoires fétiches, comme vous venez de le dire. Alors, quels sont les trucs pour calmer le stress avant un concert ou se rassurer avant de jouer un match? Mais avant tout, j'aimerais faire un petit tour de table. Et vous, qu'est-ce que c'est, vos petits trucs, vos petits pulls doudou, vos petites manières, vos... Bruno, le t-shirt, est-ce qu'il y a vraiment un rapport derrière avec...
Non, j'ai cherché, j'ai vraiment pas de doudou.
Mince.
Non, désolé.
Moi, je pensais que le t-shirt, il y avait un petit fétichisme derrière quand même.
C'est plus mes accessoires, ouais, bagues, montres, voilà. Sinon, si je les ai pas, j'ai l'impression d'être nu, en fait, tu vois.
Ah, d'accord.
C'est plus ça.
Mais c'est une mauvaise habitude, plus, non?
C'est fétiche.
Non. Ton marinière.
Oui, alors moi j'ai une marinière depuis que j'ai 15 ans. En fait, je m'habille toujours avec un peu de rayures. Là, ce soir, elles sont un peu verticales.
Ah oui, c'est pas la marinière que t'avais à 15 ans.
Non, mais je dois avoir 5 ou 6 marinières dans mon armoire.
D'accord.
Et quand je n'en ai plus ou quand elles sont usées, ben, je les change. Et ça, depuis que j'ai 15 ans. Alors, ça naît d'un traumatisme très très important. Alors, vous voulez que je vous en parle?
Non, c'est pas
ça vous intéresse pas? Même pas, je suis pas bretonne, mais même pas à 2%, quoi. Non, vraiment, ça naît d'un traumatisme. Je vous en parlerai une prochaine fois.
D'accord.
On n'a pas eu.
Et attends, on n'a pas eu tout le monde là. Oui, Soso, Karine, Matou peut-être.
Peut-être un petit. Le tatouage, je... peut-être quelque non. chose de rassurant.
Mon téléphone.
Là, c'est un super accessoire, c'est vrai. Karine et Soso.
Toujours un caleçon de mon homme dans mon sac.
C'est vrai.
Non, c'est une connerie. C'est absolument rien de ça.
S'il est propre, après, ça passe. Mais
bien sûr, pas trop savoir.
Soso. Oh my God.
Soso, toi.
Moi, c'est toujours avec mes chaussettes, en fait. Je peux pas sortir sans chaussettes.
Oui.
Ah oui. Même l'été.
Et dans les
dans les tongs, je mets pas de chaussettes.
Claquettes, chaussettes, ouais. Super mode.
Non, j'ai rien de particulier.
Ah oui.
Non.
Et toi, Caro, en fait.
Bah moi, j'ai une petite couverture, mais ça, je peux pas en parler parce que c'est un peu intime, vous voyez.
Ah
c'est...
Mais nous, on doit dire que pas
si,
droit,
moi, j'ai ça aussi, mais c'est pas quelque chose que t'as sur toi tous les jours.
Ah bah, non, mais c'est vrai que parfois, je l'ai emmené dans les grands événements.
Bah là, elle a ses rideaux sur elle.
Normalement, je parle pas.
Elle est très jolie, elle t'arrête.
Et alors, non, mais en fait, je me suis posé la question et du coup, je me suis dit que c'était très bizarre parce que moi, j'aime chacun de mes vêtements et surtout les accessoires. Je crois que je les considère comme des petites personnes. Alors, j'en fais attention, je leur parle
mieux,
et
hein.
tout.
Tu leur parles.
Je en prends soin et tout. Mais là, bon, je pense que je suis partie pour la psychanalyse pendant 10 ans.
Oui, c'est ça.
Quoi.
J'ai une théorie là-dessus. Rappelle-toi, je travaille en psychiatrie.
Bah ouais, c'est ça. J'allais te demander mon avis. Ouais. Bah oui, il va falloir là. Ouais. Je pense que c'est mal parti. Donc, je garde tout, etc. Je fais aucun tri. Donc, bah, j'ai une pièce consacrée à ça chez moi. C'est le gros bazar, mais j'aime bien.
Ça te rassure.
J'aime bien, ouais.
Okay.
C'est mon truc. Donc, alors, dans les rituels des stars de la chanson, il y a Gilbert Bécaud. Alors, j'aurais jamais pensé commencer une chronique sur lui, mais bon, tout est possible, hein, Gilbert Bécaud, ce soir. Donc, il faut savoir qu'il portait toujours, lors des émissions, voilà, une cravate à pois, et elle était faite dans une des robes de sa maman.
Oh.
Elle lui avait faite, et donc, il la portait pour un petit peu se sentir bien, un petit peu rassuré. Ça lui portait chance. Voilà, alors sinon il y a Edith Piaf qui portait souvent la même robe noire, on la voyait tout le temps, mais en fait elle avait des petits détails. Déjà, elle était en maille de soie, elle avait des manches évasées parce qu'elle prévoyait toujours des levées de bras assez haut, et elle était assez longue puisqu'elle a eu de nombreux accidents de voiture. Et en fait, elle aimait pas du tout ses jambes, elle cachait les cicatrices, etc. Mais surtout, elle mettait un point d'honneur à ce que la tenue soit hyper sobre pour que le public s'attarde plus sur sa voix et non sur son physique et ce qu'elle pouvait un petit peu dégager autrement.
Mmh. Voilà. Est-ce que t'as l'info pour Pavarotti aussi ?
Ah non.
Il avait toujours un petit mouchoir, c'était un petit doudou aussi, toujours.
Ah ouais ?
Toujours avec son petit mouchoir, ouais, pareil.
Sympa, mais c'est proche des tocs, hein, presque, après. Ah. Et donc, sinon, alors là, dans le côté un petit peu plus barjo, il y a la chanteuse Taylor Swift. Alors elle a fait une fixation sur son ventre et surtout sur son nombril. Donc elle accorde toujours sa garde-robe en fonction. Donc elle a une styliste qui est quand même spécialisée. Quand elle portait beaucoup de crop top avec des pantalons, la styliste devait quand même s'assurer qu'il y avait une bonne mesure pour qu'on ne voit que sa cage thoracique mais pas le nombril. Donc il fallait mesurer 1 cm au-dessus et surtout fixer tous les vêtements en fonction, donc avec du double face, des choses comme ça, pour vraiment que ça ne descende pas, parce que selon elle, le nombril, le ventre, elle fait un blocage dessus et tout ce qui représente, ça la dégoûte un petit peu. Voilà, donc elle va aller en psychanalyse avec moi, je pense.
Voilà, il y en a souvent qu'on a un problème avec le nombril.
Ouais,
le trou loulou.
Ouais, c'est ça. C'est quoi ça?
Je crois que Raphaël a peur.
Ah ouais,
t'as pas cette peur là, toi, Matou? Non,
non,
du nombril.
Pas le nombril.
Tu sais qu'on met le doigt dans le nombril.
Ah ouais, c'est que je dis ça m'horripile.
Ah, je vais m'évanouir, arrête.
Ah non, c'est horrible. C'est vrai que c'est spécial quand même, mais bon. Alors sinon, dans les plus bizarres, on retrouve beaucoup de choses chez les sportifs, hein. C'est les plus bizarres. Donc il y a ceux qui font une fixation sur les couleurs. Donc
oui, bah oui, le tennisman Raphaël Nadal là,
ah bon,
qui porte c'est ça, avec son sous-vêtement, je sais pas quoi.
Ah oui, lui il a plein de tocs, ouais.
Oui, c'est vrai qu'il
il
a plein de tocs.
Tapé par terre, voilà, ouais. Mais après c'est plus dans un trouble obsessionnel.
Oui, effectivement.
Mais c'est genre de rugby qu'on est comme ça, qu'on est des rituels,
ouais, des sportifs, tu
as l'impression qu'ils vont jamais à un moment donné y aller, quoi. C'est bon, c'est
ouais, c'est ça, ça peut durer très longtemps, ouais. Même les stars de la scène, enfin Madonna etc., ils prennent plus d'1 heure à faire des rituels. Mais donc c'est un peu particulier. Donc le number one, c'est Tiger Woods. Lui, il portait exclusivement du rouge le dernier jour de ses tournois de golf.
Ah oui.
Non. Voilà. Et sinon, David Coulthard, je sais pas trop ce qu'il fait là, lui, mais lui, il portait toujours les mêmes sous-vêtements comme toi, Raph, hein. Les sous-vêtements bleus, lui, lors de chaque course.
D'accord.
Par contre, toujours les mêmes.
C'est un sportif, ça.
Oui. David Coulthard, oui, c'était un pilote, ouais.
Ah oui, d'accord.
Okay. Pourtant, c'est ta génération, c'est pas la mienne. C'était gratuit, ça.
Ouais, t'arrêtes pas avec moi ce soir. Ah.
Et donc, alors, on a les plus loufoques aussi, puisque la star de NBA, Jason Gentry, vous connaissez tous.
Bien sûr.
Voilà. Et bien, lui, il dormait avec 5 paires de chaussettes.
Oh
et le t-shirt de l'équipe adverse toutes les veilles de match, en fait.
D'accord.
Donc, c'était un peu compliqué, mais bon, il avait ce petit trip-là. Alors, évidemment, le sportif le plus toqué, le plus contrôle freak et avec le plus de rituels, c'est qui, selon vous? On en parle Carl. Beaucoup. Ah non, un sportif.
Ah, enfin, sportif.
Vraiment la tête de liste, foot,
Zidane,
hyper connu.
Zidane,
non. Ronaldo.
Qu'est-ce qu'il a?
Cristiano Ronaldo, bah, il est bourré de toc en fait. Ouais. Mais au début de sa carrière, il changeait de coupe de cheveux avant chaque grand match. Ah, oui. On pensait que c'était dû à un truc esthétique, mais en fait, c'était vraiment des tocs pour se rassurer qu'il soit impeccable de la tête aux pieds. Et surtout, il fait une petite fixation sur ses sous-vêtements. Alors le truc qui est vraiment drôle, c'est que tout ça, ça a tourné plutôt à son avantage, puisqu'il en a fait bah, un peu sa marque. Il a sorti sa marque CR7 de sous-vêtements qui cartonne, et évidemment qu'il montre à chaque match, etc. Et bien sûr, il y a eu cette vague de suivre les modèles du foot avec les coupes de cheveux. Lui, ça a été vraiment le précurseur avec la petite boucle d'oreille, prendre hyper soin de soi, etc. Il a créé un véritable phénomène. Et du coup, en fait, de toc, on est passé à un gros phénomène marketing. Bah, une grosse ouais. vague marketing, et puis ça a été tout bénef pour lui en fait. Donc voilà, alors après, de manière plus générale, on parle de la superstition du vert, du vêtement vert au théâtre. Ah, et alors, ah, du coup, sûr. Soso, ah, Manu, ce soir, pile vert. Le vert quoi. Bon, la radio, c'est pas pareil, mais.
Non, c'est pas pareil.
Faut pas porter de vert sur
la couleur bleue.
Bleu pétrole, c'est vrai.
Pourquoi
j'ai pas vu oh, bah, si, ton
manteau. Pourquoi alors, le vert alors
eh bien, justement, pourquoi le vert au théâtre? Ça vient du fait que les colorations faites aux vêtements tenaient très difficilement et ressortaient hyper mal au niveau de la lumière. Donc, au XVIIe, XVIIIe siècle, elles étaient faites à base d'oxyde de cuivre et un petit mélange d'urine. Donc, ça causait de nombreuses. C'était hyper toxique. Donc, avec la sudation, ça créait vraiment des gros problèmes. Et il y a eu beaucoup de décès de comédiens à l'époque.
Oui, effectivement, oui.
Voilà. Donc, et Molière, évidemment, qui portait du vert sur scène avant de mourir. Donc voilà, ouais. Tout ça, ça a été gardé. Au théâtre, ça marche toujours un petit peu. Et puis à la télévision, etc., dans les grands endroits. Donc le vert porte vraiment malheur en France. Et pour d'autres raisons, en Angleterre, c'est aussi le vert, mais également le bleu.
C'est pas mauvais. On évite pour la de porter. Peau, le vert, au niveau du teint, c'est pas terrible
ouais. Voilà. Ça fait vite malade, en fait.
C'est ça.
Alors en Angleterre, c'est le bleu. En Italie, c'est le violet, pour d'autres raisons. Et en Espagne, c'est le jaune.
Ah ouais.
Alors, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'actrices, si on regarde bien, qui sont encore frileuses à porter du vert. Sauf la petite Catherine Deneuve. Elle a fait une petite carrière sympa. Et en fait, elle voulait justement contrer le mauvais sort. Donc, elle a eu une grosse période où elle portait que du vert.
D'accord. Elle mettait le chapeau sur le lit, passait sous les aisselles et elle avait un chat noir.
Ouais, je sais pas. Ouais, elle a tout mis ensemble. Et donc, voilà, bah, c'est la fin de ma chronique. Je vous laisse parce que j'ai ma répétition pour être sosie vocale de Gilbert Bécaud.
Mais n'importe quoi. C'est vraiment la fin de ta chronique. C'est ça, la fin de ta chronique.
Bah, ouais, c'est comme ça. Bravo, ouais. Claro. Catherine Deneuve.
Merci.
Ouais.
On attend la cravate à
fois. C'est une toute petite carrière, la pauvre.
Non mais n'empêche, ce qu'il faut dire quand même, c'est que le vert là, c'est super à la mode, il paraît.
Ouais, ça revient assez souvent. Ouais, le vert émeraude, vert pétrole, ouais. Après, faut bien choisir.
Ok.
Un vert franc, vert herbe, vert pré, là, c'est.
Comme ça là.
Non, toi,
c'est de la radio, hein. Donc elle a montré voilà. Son vert.
On verra sur Instagram. Okay.
Eh bien, en tout cas, bah, voilà. Merci Caroline, merci.
Fresh glass of Perrier. She's happy. Love. pressure's coming. Don't look up. I've got to do this. I've got to do it.
Alors, aujourd'hui, nous recevons Stéphanie, bienvenue, hein, finaliste de l'émission télé Le Meilleur Pâtissier. Alors, bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, il s'agit d'un concours de pâtisserie ouvert aux amateurs qui s'affrontent au cours de plusieurs épreuves. Alors, vous êtes jugée par le chef Cyril Lignac et Mercotte. Vous avez remporté deux épisodes symbolisés par le tablier bleu et vous vous êtes notamment distingué par la revisite de la galette frangipane en forme de citron, une recette que l'on peut trouver sur votre compte Instagram bien fourni ce compte. Alors première question Stéphanie, comment allez-vous et que devenez-vous quelques mois après la diffusion de l'émission?
Eh ben ça va très bien. J'ai engagé ma reconversion,
ouais.
En fait,
ah.
suite à l'émission. Alors c'était déjà prévu avant l'émission, mais ça m'a conforté dans mon idée en fait de reconversion, de finir deuxième, même si c'est pas la meilleure place.
C'est une belle place.
Oui, mais premier c'est mieux quand même. Soyons compétitifs jusqu'au bout. J'ai intégré une école de pâtisserie.
Alors la pâtisserie, vous êtes tombée dedans toute petite, racontez-nous comment s'est révélée cette passion.
Alors en fait, j'ai commencé toute petite avec ma mamie, ma grand-mère maternelle, avec qui on faisait une tarte aux pommes, pas des choses folles, mais c'était la meilleure, enfin c'est la meilleure tarte aux pommes d'ailleurs, même Pierre Hermé ne rivalisera jamais avec cette tarte aux pommes. Et donc je faisais ça avec elle petite et j'étais toujours avec elle en fait, et elle est partie malheureusement en 99, donc là j'ai tout arrêté.
Ouais.
J'avais plus envie de grand chose à vrai dire, et encore moins de faire de la pâtisserie, et encore moins cette tarte aux pommes. Et donc après je suis devenue maman des années plus tard évidemment, et ça a recommencé petit à petit en fait il y a 3-4 ans, 5 ans maximum je pense à peu près.
Mm-hmm. Donc avec des vidéos sur internet que vous regardiez?
Exactement, beaucoup de livres et des vidéos, des tutos, et puis j'ai fait, refait, etc. Et en général quand je fais quelque chose je le fais à fond. Donc voilà, je me suis lancée.
Et du coup, vous avez publié ce que vous faisiez sur votre compte Instagram, hein, Steph-8LMP8, hein, pour ceux qui veulent vous suivre. Alors, donc, pour participer donc, à cette émission, vous avez été donc repéré via ce compte Instagram. Alors, on aimerait que vous nous racontiez la phase de casting qui est assez surprenante.
Bah, en fait, une amie à moi a été contactée, elle n'a pas voulu le faire. Ils lui ont demandé si elle connaissait quelqu'un qui était intéressé par ça. Elle connaissait mon goût du challenge et elle a donné mon compte Instagram. Donc une casteuse m'a parlé sur mon compte en me disant écoute, j'ai repéré ton compte, je suis intéressée. Si ça t'intéresse de passer le casting, enfin si ça t'intéresse de tenter l'aventure en fait, il reste une place. Donc si dans l'heure qui suit tu m'envoies une vidéo de toi de présentation de 30 secondes
le
très
stress.
Rapidement, ah oui, un gros moment de pression mais j'aime bien, donc j'ai été voir mon patron et je lui dis écoute je m'absente 2-3 minutes, j'arrive, je suis partie
pendant le travail
je suis descendue dans mon garage souterrain, je me suis filmée vite fait, j'ai fait une prise, je me suis même pas regardée, je me suis présentée très rapidement. Et puis en fait, quelques semaines après, il m'appelait pour me dire que j'étais sélectionnée pour passer le testing.
Pendant 2-3 semaines, en fait, vous n'aviez pas de nouvelles.
Aucune nouvelle.
Et puis tout à coup, donc on vous rappelle. Mmh. Et là, pareil, il faut faire très très vite. Hein.
En fait, j'avais candidaté à Ferrandi en fin d'année. Parce que Ferrandi, c'est sur candidature. Donc j'avais envoyé ma candidature avec CV, lettre de motivation, comme pour un entretien d'embauche en fait. Et j'ai passé l'entretien chez Ferrandi. Et au moment où je repartais, donc ça faisait 2 jours, j'étais arrivée la veille pour être bien pour l'entretien et tout. Et au moment moment de monter dans le train, en fait, bah, M6 m'appelle en me disant, écoute, tu as été retenu. C'était donc lundi soir, enfin lundi après-midi, tu as été retenu. Si jamais ça t'intéresse, le casting, il est mercredi à 9h. C'est ta dernière chance. Donc, oh là là. Donc même avant d'appeler mon mari, j'ai appelé mon patron, voilà, pour lui dire, écoute, je serai pas là mercredi, est-ce que ça te va? Donc je suis rentrée, j'ai pris des affaires propres, j'ai bossé la journée du mardi, je suis repartie le mardi soir pour être le mercredi matin au taquet, au casting.
Et là, donc, vous avez réalisé une revisite de tartelettes noisettes et un gâteau revisité souvenirs d'enfance.
Exactement.
Ce qui vous apporte des chances.
Exactement.
Alors donc, le 2 avril, vous commencez le tournage. Alors dévoilez-nous un peu les coulisses. Comment se passe une journée type, le déroulement des épreuves, les choses que nous ne voyons pas forcément à l'image?
Alors, une journée de tournage type, c'est lever vers 6h, grosso modo. On part de l'hôtel vers 7h. À 7h30, on arrive, on se fait microter. On abandonne... bah oui, c'est vrai que ce terme, on l'a tellement entendu, en fait, là-bas, que voilà, c'est...
Que ça devient naturel, mais nous, ça fait bizarre pour la première fois qu'on l'entend.
On nous équipe de micros. Et en fait, on doit lâcher nos portables dans une boîte,
ouais,
qui avait prévu notre nourrice, parce qu'on a une nourrice,
ouais,
exactement. Bah, il fait nos allers-retours et puis il gère nos petits bobos. Et en fait, on laisse nos téléphones et après, bah, on part pour une journée de tournage. Donc l'émission se tourne sur 2 jours. Le premier jour, c'est la revisite de Cyril, enfin le défi de Cyril, et puis l'après-midi, l'épreuve de Mercotte, avec toujours les dégustations dans la foulée, etc. Et le lendemain, la créative.
D'accord. Et vous êtes environ 80 personnes, hein, sous la tente.
Sous la tente, on est à peu près 80 personnes.
C'est ce qu'on ne voit pas forcément.
Beaucoup de personnes nous disaient, mais oui, c'est du gâchis, tout est jeté, etc. Pas du tout. Tous nos gâteaux sont mangés par tout le staff, en fait. Donc 80, forcément, il n'y en a même pas assez pour tout le monde. Donc même à 14 candidats.
D'accord. Et puis, il y a également les interviews, hein, que vous devez donner, les commentaires que vous devez faire. Alors, du coup, vous allez m'en parler juste après un extrait de votre passage dans l'émission, un jour où le thème était l'amour. À un moment, la présentatrice Julia vous parle de votre rencontre avec votre mari.
Ton amour sous la tente, c'est à Anissa que tu l'as donné, mais dans la vie, c'est à qui?
C'est mon mari, évidemment. Il s'appelle David.
Comment vous êtes rencontrés avec David?
On s'est rencontrés un soir où je prenais l'apéro dans un bar.
Ah, tu veux dire
c'est très romantique.
Tu veux dire que t'étais...
J'étais légèrement fatiguée, et puis bah, il était là à ce moment-là, donc...
Et
qu'est-ce qui t'a plu chez lui?
Je veux dire,
il m'est ramené chez moi.
Mais non.
Je ne suis pas romantique.
Si je te fais ça, t'as envie de me tuer, quoi. Pour toi, c'est un peu gnangnan.
C'est complètement gnangnan. Je déteste ce qui est gnangnan.
Et il est là ce soir, son mari.
Effectivement. Alors, ça ne doit pas être évident de commenter toujours ce qu'on fait, de répondre aux interviews. Alors, est-ce que c'est une habitude que vous avez gardée, justement, par exemple?
Bah, en fait, j'avais déjà cette habitude-là parce que j'ai deux filles, donc une petite. La grande s'en fiche un peu plus, mais elle pose quand même des questions. Mais la petite est toujours dans mes pattes quand j'ai quelque chose à faire. Donc, en fait, j'avais tellement l'habitude de faire mes gâteaux en répondant à ma petite qui était accrochée à ma jambe que finalement, Julia m'a pas plus posé problème que ça, donc au contraire. Et en plus, elle est adorable. C'est D'accord. quelqu'un de formidable.
Alors, on peut imaginer que tout n'est pas facile. Hein. On l'a évoqué tout à l'heure, la chaleur sous la tente liée au projecteur, j'imagine qu'il doit faire très très chaud. Et la tension qu'il peut y avoir, qu'est-ce qui a été le plus dur finalement pour vous?
Alors, ça a été l'inverse, justement. Quand on a enregistré le 2 avril, il devait faire 3 degrés dehors et sous la tente, il devait faire 12 degrés.
Ah,
donc,
oui.
Ouais. Alors, il y en a qui étaient réchauffés parce que j'ai des copines qui étaient en débardeur. Moi, j'étais en pull, manteau, écharpe.
Ah, oui,
donc,
vrai,
on a un gros
maintenant.
Contraste ouais. entre nous. Mais alors, je suis ultra frileuse quand on descend en dessous de 15, c'est le pôle Nord. Donc, c'était une catastrophe pour moi. Mais après, ce qui est le plus difficile en soi, c'est plus d'être séparée de sa famille. Enfin, moi, c'est la seule chose qui m'a peinée en fait pendant cette aventure-là. Le reste.
Tant quand c'est comme ça, vous êtes.
On part 2 mois. Enfin, on part entre une semaine, si on est éliminé d'abord, parce qu'on
ah
part au fur et à mesure.
Vous revenez pas, en fait.
J'ai eu l'autorisation une fois de revenir, et après, eux sont venus me faire la surprise sous la tente. Bah, quand j'ai fait le gâteau pour mes filles, justement. Donc, et puis voilà, quoi. En fait, et je les ai revus à la finale.
D'accord. Mm. Ah oui, donc c'est quand même très intense.
C'était
quoi.
Très, très intense. Ah, oui. Ouais.
Et vous êtes hébergé en hôtel, j'imagine, sur place.
En hôtel, juste à côté, à 10 minutes. Mm.
D'accord. Alors, ce fut quand même une expérience incroyable. On l'imagine. Que retenez-vous de cette aventure?
Bah, c'était magique, c'était une aventure vraiment magique. À refaire, je le referais, je sourirais peut-être un peu plus, niaisement, parce que ça passe mieux à la télé de sourire comme ça sur son, même si c'est pas mon truc, mais c'était un beau moment quand même, parce que voilà, ça m'a challengé et que voilà, enfin c'est une belle aventure. Voilà,
ouais, c'est quelque chose qui viennent, c'est les relations que vous pouvez avoir entre vous, parce que ça a l'air, enfin on sent, après je sais pas si c'est la réalité, mais on sent quelque chose vraiment de partage. Vous avez l'air de bien vous entendre,
vraiment. Il y a vraiment une bonne ambiance. Après, on peut pas aimer tout le monde, enfin dans la vraie vie, voilà,
quoi. Dans les relations,
il y a des gens avec qui on a plus d'affinité que d'autres. Il y avait des petits groupes, forcément, ben, comme dans la vraie vie en fait, mais c'est vraiment, enfin c'était vraiment une belle aventure, même humaine. Donc moi j'ai gardé des relations avec quelques personnes en fait qui sont restées les mêmes. Donc voilà, c'est important parce que bah ça reste de la télé, donc voilà. Mais non, c'est une belle aventure humaine aussi, quoi. Donc on s'entendait vraiment majoritairement tous plus ou moins bien ensemble.
Parce que vous êtes finalement un peu 24 sur 24.
Ah bah complètement. Oui, on vit ensemble. Vit ensemble. On rentre dans un minibus le soir, il est 22, 23 heures, minuit, 1 heure, c'est arrivé. Ouais. Donc pour repartir à 6 heures le matin, donc en fait, enfin on se quitte quelques heures histoire de prendre une douche, de dormir, et puis bah on fait tout, enfin les petits déjeuners ensemble, les dîners, les week-ends ensemble. Quoi. Ça crée des liens.
Dernière question, parce qu'à chaque fois on voit de sacrés chefs venir et on vous sent à chaque fois, ça a l'air. Et du coup vous avez du temps avec eux pour travailler
pas du tout
parce que moi c'est la question que je me posais, c'est j'avais l'impression que vous aviez un petit peu un temps de formation pour leur expliquer, qui vous explique un peu eux c'est quoi leur pratique. Non, ils sont là,
il y a
juste
aucune formation sous
pour,
cette
il y a juste pour goûter
pour être
juger entre guillemets votre travail.
C'est le troisième jury sur la créative, ça veut dire qu'ils viennent, on les connaît vraiment pas à l'avance, c'est vraiment la surprise quand on fait notre tête surprise. C'est pas du fake. Donc à part Pierre Hermé malheureusement qu'on a croisé dans un coup parce qu'il s'est trompé de porte, donc là on l'avait vu, c'était le pire je crois, en disant oh là mon dieu, voilà, donc on se met une pression de fou, mais sinon on les découvre vraiment sur le moment. Et après on a la chance de faire la masterclass avec eux, donc là après on les voit
c'est après.
Où eux font la revisite de ce qu'on a eu comme défi.
D'accord. Parce qu'on sait jamais dans quel sens ça fonctionne.
Mais c'est bien après.
Dernière question, Stéphanie, qu'est-ce qui vous passionne tant finalement dans la pâtisserie, dans ce que vous faites au quotidien?
Alors moi ce que j'aime, c'est pouvoir créer avec mes mains. C'est inventer, et d'ailleurs j'en fais mon métier aujourd'hui, c'est inventer une recette, donc créer une recette vraiment de toute pièce. Et c'est le but de ma reconversion, de faire du consulting, donc pour accompagner les restaurateurs ou les pâtissiers et boulangers qui me solliciteront. Ça arrive déjà un peu, donc ça va commencer. Et c'est ce que j'aime, et faire d'une pâtisserie un bijou avec le double waouh. Donc quand on le regarde, on trouve ça beau, et quand on le goûte, on trouve ça encore meilleur. Donc voilà, c'est ce que je cherche.
Eh bien, merci Stéphanie, gardez votre pêche, votre envie de réussir, votre enthousiasme. Bonne chance pour la suite de votre parcours. On vous retrouve sur Instagram et sur Facebook. Les liens de vos autres comptes sont à retrouver sur les pages de l'émission Tendance à me plaire. Voilà pour ce nouveau best-of, on espère vous avoir diverti et on vous retrouve très bientôt pour, on l'espère, de nouvelles émissions inédites. À bientôt sur Radio G, sur Fréquence Zik, mais aussi sur les réseaux sociaux et en podcast. À bientôt les amis.
Tendance à me plaire. 101.5.